Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour, Monsieur Genèvre.
Bonjour.
Alors, nous avions fait connaissance il y a bien longtemps, quand vous étiez en charge des écomères. Hein, et puis, maintenant, vous êtes donc présidente de UICN France, l'Union internationale de conservation de la nature. On sait que c'est une organisation mondiale et qu'elle est partagée en plusieurs morceaux régionaux. Et donc, vous avez la responsabilité depuis quelques années de la France. Alors, je ne vais pas. Vous venez de vivre très récemment un congrès mondial qui a pris de nombreuses responsabilités. Comme finalement ce congrès mondial a pris des engagements pour 4 ans, on aura l'occasion de revenir sur tous ces engagements. Et aujourd'hui, on va essayer d'aborder des choses très précises dans le cadre des décisions qui ont été prises. Alors, une de celles qui est très remarquable, c'est finalement cette liste verte. Ça nous change un peu de la liste rouge des espèces interdites. La liste verte des 7 aires protégées, qui sont donc reconnus aujourd'hui par l'UICN. Alors, il y avait eu sans doute des controverses au moment de l'UNOC sur les aires protégées, et cette reconnaissance par l'UICN de 7 aires protégées nous permet d'y voir un peu plus clair. Est-ce que vous pouvez nous parler de celles qui ont été donc choisies en France ?
Oui, bien sûr, avec plaisir. On est assez fiers de ce standard que sont les listes vertes de l'UICN. Peut-être pour rappeler que c'est un label international, hein, ça permet de définir des aires qui sont protégées, où on a un certain nombre de critères dont la gouvernance, la gestion, et donc pas simplement la qualité environnementale, la planification, ça c'est essentiel.
Ça veut dire, est-ce que c'est bien géré, quoi, que la gouvernance, quand vous parlez de la gouvernance, ça veut dire, est-ce que on a une certitude, une transparence sur leur administration?
Et un partage, parce que les meilleurs exemples, ce sont ceux, et les plus réussis, ce sont ceux où on a les intervenants du monde économique, par exemple la pêche, si on est sur une liste verte comme celle qu'on a dans le sud de la France, près de Marseille, les personnes qui font du tourisme, les scientifiques, les ONG, les collectivités territoriales, il faut mettre toutes les parties prenantes autour de la table. Donc gouvernance, gestion évidemment, pour s'assurer de la qualité du travail qui est fait, planification, et puis des résultats de conservation qui sont essentiels. C'est vraiment un outil complexe, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a 17 critères, 50 indicateurs, et ça, ça permet de mesurer, de suivre la qualité de gestion. Alors, à chaque congrès mondial, on a un travail qui aboutit et qui permet de renouveler ou de recevoir pour la première fois ce label liste verte. Il y en a eu 7 qui ont été décernées à l'occasion en 2025, et elles confirment l'excellence de la gestion française en matière de protection de la nature. Elles impliquent les gestionnaires et elles sont aussi diverses. C'est ça qui est important de souligner. Ça peut être aussi bien des forêts méditerranéennes que des milliers montagnards, que des zones humides, que des espaces marins métropolitains ou en outre-mer. C'est un peu ce qui caractérise cette nouvelle promotion.
Nous, on est à Montpellier. Tout à l'heure, vous avez cité très rapidement Marseille. Donc, sur la Méditerranée, est-ce qu'on a des choses nouvelles ?
Alors on a plutôt décerné, ça va être pour vos auditeurs, ils vont devoir tourner les yeux vers le nord de la carte, mais on a récompensé notamment 2 territoires dans les Vosges du Nord, et puis peut-être plus proche, le parc national des Écrins, qui est le seul parc national labellisé à la fois pour sa zone de cœur et son, son aire d'adhésion, des territoires aussi plus en des territoires en outre-mer comme en Guyane, le parc naturel marin de la mer d'Iroise pour cette nouvelle promotion, mais on a en tout plus d'une vingtaine de sites liste verte, de sites lauréats, et puis évidemment on n'a pas que ces territoires qui sont bien gérés, hein. C'est ce qu'il faut dire, c'est un standard parmi d'autres.
Oui, pardon. Quand je parle des 7 listes, c'est des Français, alors, parmi les 20.
Oui, d'accord.
Voilà, d'accord, ok. Et oui, bien sûr, vous avez d'autres territoires qui sont bien gérés et que vous continuez à soutenir, je suppose.
Bien sûr, parce que la France est plutôt en avance. Et moi, on a toujours tendance à être pessimiste au niveau français, mais on est quand même plutôt en avance sur la protection. C'est jamais suffisant, mais sur la protection et sur les territoires de protection, parce qu'on a une longue histoire. On a le Conservatoire du Littoral, on a les réserves naturelles, les parcs naturels régionaux, un ensemble d'accompagnements institutionnels qui permettent d'envisager cette protection territoriale. C'est pas du tout le cas à l'échelle mondiale. On le voit quand on se rend dans des COP ou quand on échange avec nos collègues. On a quand même de la chance d'avoir pu avancer sur ce plan-là au niveau français. Et c'est sans doute pour ça que la France est la championne des listes vertes de l'UICN. On a à peu près un tiers des sites qui ont été labellisés à travers le monde, parce que c'est complexe, parce qu'on met beaucoup de moyens, parce qu'il faut de l'accompagnement, ça ne se fait pas de façon spontanée, et puis parce qu'il y a une volonté partagée, notamment des collectivités locales et des scientifiques, de pouvoir travailler de façon commune. J'aimerais revenir quand même sur la région, même si c'est pas la dernière promotion, mais sur la région de Montpellier, pour si les gens veulent peut-être aller voir à quoi ressemble une liste verte. On a la réserve naturelle marine de Cerbère-Bagnoules, qui est sans doute la plus proche de mémoire. Et voilà, et on ne peut que vous engager à prendre connaissance sur le terrain de cette réalité concrète.
Alors, bien sûr, on en parle beaucoup parce que aujourd'hui, avec toutes les menaces qui se posent sur la Méditerranée, obligatoirement, les aires marines protégées font partie des sanctuaires qu'on observe avec attention. Alors, vous avez évoqué également, au cours de ce congrès mondial, beaucoup de petits projets ont été développés en Afrique et on quitte un peu les grands engagements de l'UICN pour se rapprocher de plus en plus du local. Alors, est-ce que c'est votre savoir-faire, en tout cas des commères, hein, de cette responsabilité locale qui a pu jouer un rôle, qui peut jouer un rôle?
On a un programme qui existe depuis 2006 à l'UICN, donc j'en suis pas je ne suis pas la personne qui avait innové sur ce programme, mais pour tout vous dire, c'est ce programme Petite Initiative, c'est celui qui m'a intéressé, qui m'a rapproché à un moment donné du comité français de l'UICN. Alors, il est peut-être mal nommé, mais en gros, c'est accompagner des petites associations environnementales, notamment africaines, mais pas que, qui agissent sur les écosystèmes et qui font travailler les communautés locales. C'est vraiment travailler avec la société civile locale. Aujourd'hui, donc, ce programme a près de 20 ans.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, hein, de petits projets?
J'aime beaucoup les exemples qui sont portés par les communautés de femmes. C'est des programmes que je défends aussi dans mon cadre professionnel. Il y en a une qui est formidable, qui est faite à Lambaréné, au Gabon, où en fait, on avait des vendeuses de viande de brousse. Et ces vendeuses de viande de brousse, avec du financement, se sont converties dans de l'élevage et l'ouverture d'un restaurant communautaire qui permet de manger du poulet à la place de la viande de brousse. Et les femmes ont réinvesti ensuite les bénéfices, parce que c'est souvent ce qu'on voit avec les projets de femmes, au niveau local, avec la scolarisation des filles, la prise en charge des enfants en très bas âge. Donc un réinvestissement, et ça donne aussi du travail à des femmes qui n'en avaient pas et qui vivaient d'agriculture vivrière. Donc c'est bien pour la biodiversité, c'est bien pour sur le plan aussi social. Un autre exemple que j'aime beaucoup, et donc on ne parle pas que de viande de brousse ou d'animaux, ce sont les femmes en périphérie du Djar, c'est là qui avant produisait du charbon, donc déforestation, production de charbon. Elles ont créé une coopérative pour valoriser les produits forestiers, notamment les produits non ligneux. Et puis, ça peut être aussi des solutions fondées sur la nature qui sont financées. On a un exemple assez réussi au Cameroun, parce qu'on parle beaucoup maintenant de One Health, d'espèces exotiques envahissantes. Donc, c'est aussi important d'intervenir sur ce plan. Et on a une ONG qui a introduit un charançon ravageur pour lutter contre une plante invasive qui elle-même était responsable de l'eutrophisation du lac Ossa, qui est le lac qui était à côté. Et c'est un lac où il y a des lamantins, où il y a des stocks halieutiques. Et en fait, cette eutrophisation aboutissait au départ des lamantins et
alors,
à la baisse et la disparition des poissons.
L'eutrophisation, rappelle ce que c'est, c'est-à-dire que finalement, c'est des végétaux qui viennent prendre l'oxygène de l'eau.
Qui étouffent l'oxygène et donc du coup, là, la plante étouffe en fait le reste de vie. Et donc, grâce à ce charançon, la plante a disparu, les lamantins sont revenus. Donc voilà, c'est vraiment des exemples réussis autour des plantes, autour des animaux et puis sur de l'action sociale d'accompagnement. Et ça se fait, et j'insiste vraiment sur ce point, à chaque fois en négociation avec les chasseurs, avec les agriculteurs, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, c'est vraiment une nécessité d'avoir un axe gagnant-gagnant pour que les gens comprennent que c'est leur intérêt économique, leur intérêt sociétal et leur intérêt environnemental. Et on arrive aujourd'hui à la 7e phase de ce projet pour les 5 prochaines années.
Vous évoquiez également One Health, c'est-à-dire les problèmes de santé. Est-ce que vous avez un exemple sur la santé que vous auriez développé justement?
De façon globale, par exemple, on utilise avec des solutions fondées sur la nature, l'utilisation on fait de l'effarouchement d'un certain nombre d'espèces. Au lieu d'utiliser des pesticides ou au lieu d'utiliser la chasse, on utilise des méthodes d'effarouchement naturelles. C'est à chaque fois, les programmes sont fondés sur pas introduire des déséquilibres dans l'écosystème, faire en sorte que ce soit des solutions les plus naturelles possibles et qui engagent les gens, parce que ça évite ensuite de faire de l'importation. Et puis, il faut absolument éviter de créer des dommages qui n'existaient pas par la régulation. Voilà, c'est vraiment
d'introduire projets, en fait de la modernité qui serait destructrice.
C'est de la modernité avec de la tradition. Et parfois, il faut remettre simplement du bon sens, mais accompagner ce bon sens, parce qu'on ne peut pas demander aux gens de transformer leur modèle économique de façon brutale, alors qu'ils n'ont même plus eux-mêmes des capacités de résilience sur le plan économique local.
Alors, est-ce qu'il y a un autre exemple que vous aimeriez développer avant que nous nous quittions? Bien sûr, on sait que c'est énorme, mais je reviendrai plusieurs fois sur le programme de l'UICN, donc j'aurai l'occasion d'en reparler. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez mettre en exergue?
Alors, peut-être un exemple qui est celui de... Parce que l'UICN est connu pour ses listes rouges et la lutte pour éviter la disparition des espèces, notamment en danger critique. On a des programmes qui sont développés en ce sens. Je pense notamment à un programme au Bénin qui œuvre pour la sauvegarde du vautour charognard. Alors là, ça nécessite d'abord de travailler sur les préjugés culturels, parce que le vautour, c'est un peu comme le loup chez nous, les gens n'aiment pas trop. Protéger les sites de nidification, protéger les sources de nourriture pour que les petits puissent se nourrir. Et puis, dans ce territoire où on intervient avec SOS Savane, on a aujourd'hui des nouvelles naissances et la population locale elle est remontée à peu près à 150 individus observés. Je pense qu'on en aura plus dans les prochains mois. Donc on est en train de sauver une espèce qui était en plus une espèce mal aimée avec ce travail avec les habitants et puis avec cette préservation.
Je suppose que conjointement, ça implique un travail sur les déchets.
Ça implique, en fait, souvent on s'aperçoit que, on pourrait dire exactement la même chose de l'Europe, que ça implique surtout un changement de regard. Enfin, on voit que les bétails ne sont pas gagnés en France avec le lynx, le loup ou l'ours. Chacun a ses espèces qui sont craintes ou mal aimées. C'est le vautour ou ça peut être le crocodile en Côte d'Ivoire. Il faut vraiment d'abord changer le regard pour changer les pratiques ensuite.
Bien, alors je rappelle que vous êtes actuellement, bien sûr, au Salon des maires qui se déroule en ce moment à Paris. Donc, effectivement, on est un petit peu loin, mais et l'ambiance n'a pas l'air super, super là-bas.
Ah, je pense que les collectivités, elles cherchent un peu à savoir ce qu'elles vont faire. Moi, je suis quand même résolument optimiste. Je travaille avec des élus qui sont engagés sur l'environnement, qui ont envie de faire plus, mieux, même s'il y a moins de moyens aujourd'hui dans les collectivités locales. Et moi, je trouve plutôt qu'il y a une belle énergie dans cette approche des municipales avec des idées innovantes. J'ai vu des élus beaucoup tourner sur les questions de changement des plans d'urbanisme, que ce soit pour intégrer la logistique ou moins consommer de terre ou adapter au changement climatique les fameux villes à 50 degrés. Je trouve plutôt que ça foisonne d'idées. Maintenant, il va falloir les mettre en œuvre.
On leur demande de plus en plus.
C'est compliqué. De toute façon, la question environnementale est une question qui s'est complexifiée au fur et à mesure des années, parce qu'il y a de plus en plus de réglementations, des contraintes aussi européennes, et puis il y a une demande aussi croissante de la population. Auparavant, si vous aviez, il y a 20 ans, si vous plantiez quelques fleurs et que vous aviez le logo, le label Ville Fleurie, les gens étaient contents. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout la demande. Il y a une prise de conscience. On venait évoquer à l'élection One Health des effets des pesticides, de la pollution atmosphérique, une crainte demain de l'habitabilité des villes face au changement climatique et au réchauffement, aux canicules. Donc tout ça, ce sont des sujets qui n'existaient pas, en tout cas de façon aussi prégnante, il y a 20-25 ans. C'est forcément important dans l'agenda des maires. Et puis, les crises sont interconnectées, les sujets deviennent de plus en plus complexes sur le terrain.
Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler ensemble à cette antenne. Bon courage donc pour la fin de ce congrès des maires. Hein. Au revoir, Maud. Merci.
Au revoir. Merci de votre invitation.
Alors, Frédéric Greux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes polytechnicien du Corps des Mines. Vous êtes auteur de deux livres, L'art de creuser un trou, qui a été édité chez Gallimard. Et puis, bien sûr, le livre dont on va parler aujourd'hui, et si ce n'était pas le climat, La biodiversité, le combat pour changer le monde, chez Edisens. Alors, d'abord, je vais revenir un peu avec vous sur ce titre. Et si ce n'était pas le climat, ça veut dire que vous n'y croyez pas à ce climat? Vous êtes d'accord avec Trump sur la grande arnaque du siècle?
Ah, pas du tout, je ne suis pas du tout d'accord avec Trump sur ce sujet. Le sujet, c'est que le climat est un sujet excessivement important, mais que pour le résoudre, il faut paradoxalement considérer l'écologie dans sa globalité. Et je vais vous donner un exemple. Prenons l'exemple, par exemple, des forêts françaises. Aujourd'hui, le gouvernement a, de manière totalement honnête, hein, lancé ce que l'on appelle un grand plan pour presque planter des centaines de millions d'arbres. C'est depuis l'an 2000. Et en fait, cette plantation d'arbres avait un but, autre que l'économie. Il avait le but de permettre aux forêts d'absorber le carbone. Par exemple, on laisse un arbre pousser, ensuite on le coupe, on le met dans bois matériaux, dans des meubles ou dans la construction, le carbone est stocké et pendant ce temps-là, un nouvel arbre pousse. Et on peut dire que ce serait logique comme raisonnement. Mais on se rend compte que cette politique centrée sur le climat ne fonctionne pas, en fait, même pour le climat. La forêt française aujourd'hui, dans certains endroits, et émettrice nette de carbone, et des études nous montrent qu'en 2030, ce sera l'ensemble de la forêt française qui sera émettrice nette de carbone. Pourquoi? Parce qu'en réalité, malgré les bonnes intentions, en se focalisant uniquement sur le climat et sur le carbone, on a créé ce qu'on appelle des usines à bois, et pas des forêts vivantes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, en 10 ans, la mortalité des arbres en France a été multipliée par 2. Ce qui nous donne, en fait, des arbres qui vont bientôt des forêts qui vont bientôt devenir émettrices nettes de carbone.
Donc c'est ce qui vous a fait, en fait, c'est ce qui vous a fait évoluer vers la question de la biodiversité, qui est selon vous un combat qui n'est pas encore suffisamment pris en charge hein, et qui pourrait changer le monde. Question que l'on donne finalement, enfin responsabilité qu'on donne à un changement climatique.
Oui. Mais en réalité, ce n'est pas que ma théorie personnelle.
Oui, bien sûr.
L'IPBES, qui est ce qui est à la biodiversité, ce que le GIEC est au climat, donc un organisme mondial qui rassemble les plus grands chercheurs du monde entier sur ce sujet, a publié en décembre 2024 le rapport Nexus qui dit exactement ce que je dis dans mon livre. C'est-à-dire que si on se focalise sur des solutions qui ne pensent qu'au climat et pas à l'écologie dans sa globalité, on ne va non seulement pas résoudre l'ensemble des crises écologiques, mais bien plus on va être inefficace sur le sujet climatique. Et donc c'est ce qui m'appelle à défendre la biodiversité plus généralement, l'équilibre des écosystèmes.
Alors effectivement, c'est un thème sur lequel on a trop attendu, c'est-à-dire qu'on a parlé longuement du climat depuis 1992, moment où ont été signées les deux conventions, celle sur le climat et celle sur la biodiversité. Et puis finalement, eh ben, on a laissé tomber dans un espèce de puits noir la biodiversité pour s'occuper du climat. Alors, en même temps, vous nous dites qu'il y a tout un système de pensée qui est en train de se développer. C'est vrai qu'on a on dénonce beaucoup aujourd'hui le recul de l'écologie, on parle de backlash de l'écologie, c'est-à-dire on parle de recul, comme si on défaisait les lois sur l'écologie. Est-ce que ça signifie que finalement les gens ne s'en préoccupent plus ?
Eh bien, pas du tout. Les dernières études et les derniers chiffres montrent totalement le contraire, que l'écologie est parfaitement présente dans l'esprit des gens, et d'ailleurs pas que dans l'esprit des citoyens, dans l'esprit des entreprises et dans l'esprit des leaders économiques. Il n'y a que quelques mesures politiques qui aujourd'hui, paradoxalement, vont contre l'écologie. Je donne quelques chiffres. Il y a eu dernièrement la publication d'un sondage sur est-ce que les Français, êtes-vous inquiets par les événements climatiques extrêmes ? 90% des Français étaient inquiets par ces événements climatiques extrêmes. Autre chiffre, une étude a été publiée en septembre, une étude mondiale, qui posait la question, qui s'interrogeait sur est-ce que les citoyens sont d'accord avec un objectif simple, qui est celui de protéger 30% des aires marines et terrestres, alors qu'aujourd'hui, c'est respectivement 18% et 7% qui sont protégés au niveau mondial. Cette étude, qui était dans 8 pays, a prouvé que 80% des citoyens étaient favorables à cet objectif. Du plus faible, 66% en Suède, au plus fort, 90% au Brésil et en Argentine, en passant par un 75% aux États-Unis, le pays de Donald Trump.
Alors, pourquoi en fait voit-on ce recul parce que c'est indéniable quand même, la loi Omnibus au niveau européen est un réel recul en termes de législation écologique. Alors pourquoi les gens ne réagissent-ils pas si vous dites qu'ils sont à 90% sensibles à cette question de l'écologie ?
Déjà parce que en réalité, les gens, quand ils votent, se prononcent parfois sur autre chose que l'écologie. Et parce que les politiques ne suivent effectivement pas aujourd'hui l'opinion générale de la population et des leaders économiques, parce que faut pas oublier que le Forum de Davos, qui ne peut pas être qualifié de gauchiste, a classé les risques écologiques comme le premier danger pour l'économie mondiale à 10 ans.
Alors ils ont peur de quoi ? Ils ont peur finalement de... Pourquoi ils ne s'expriment pas ?
Les gens ont peur parce que c'est un changement massif. L'écologie va être un changement massif, un changement qui va nécessiter beaucoup d'argent. Et bien entendu, lorsque l'on a besoin d'un changement qui fait beaucoup d'argent, tout de suite, les gens ont peur. Et ils ont raison d'avoir peur. Prenons l'exemple du ZAN, le zéro artificialisation nette, qui est un objectif partagé par 89% des gens dans les sondages. Donc, qui consiste à limiter la construction et la destruction de nature, ou lorsque l'on détruit la nature, en parallèle de détruire des constructions pour replacer de la nature. Donc, le zéro artificialisation nette, Anna, est une loi qui a été votée sans aucun financement supplémentaire. Alors qu'un simple calcul nous montre qu'elle coûte 40 milliards par an. Donc, c'est typiquement le genre de loi qui est, dont les objectifs sont partagés par la population, qui est nécessaire, mais que le gouvernement a voté sans aucun financement derrière, qui peut faire légitimement peur à la population.
Et donc, on se trouve finalement aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la semaine du congrès des maires en France, eh bien, on se trouve en face d'une situation où on a, au niveau global, des décisions qui sont prises et qui sont sans doute les bonnes, et puis au niveau local, on n'a pas les moyens de les mettre en place. C'est un peu ça, en fait.
Et exactement. Mais que les gens se rassurent, le financement est possible, existe, il y a des moyens, que ce soit la politique fiscale, que ce soit la politique monétaire, les moyens sont connus, c'est seulement un problème de politique, de choix politique. Et ce dont vous me parlez également, c'est effectivement une question de gestion territoriale. Lorsque l'on se focalise sur le climat, on peut effectivement avoir une position centralisée. Mais lorsque l'on prend en compte l'ensemble des crises écologiques, on voit très bien que chaque écosystème est local et qu'on ne peut pas piloter depuis Paris. Et donc, effectivement, il s'agit de donner les moyens aux collectivités territoriales de mener ce que les citoyens veulent, c'est-à-dire une vraie politique écologique, mais juste, égale pour tout le monde, égalitaire, que les efforts ne soient pas concentrés juste sur un certain nombre de personnes. Et ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire une gigantesque révolution territoriale aujourd'hui, qui est également ce que les Français veulent. Puisqu'il y a un sondage qui est paru en août et qui a montré que le nombre de Français favorable à ce que les collectivités territoriales aient plus de pouvoir, a monté de 20% en 10 ans.
Et aujourd'hui, on peut dire d'ailleurs que finalement, cette réforme territoriale, elle nous était annoncée il y a maintenant 4 ans, 5 ans, et elle n'a pas avancé à l'époque de Borne, et elle n'a pas avancé d'un pouce. On a même régressé, on a perdu le CGS, DD, enfin bon, maintenant, on vient de retrouver un peu grâce à le cornu des choses, mais on est quand même très loin de là où on devrait être.
On est excessivement loin, loin des attentes des Français, mais là où on peut avoir de l'optimisme, c'est que les gens sont d'accord avec les objectifs écologiques, que l'écologie va nous forcer à bouger et va nous forcer vers une société plus égalitaire, et une société plus démocratique, en fait, en réalité, parce que la révolution territoriale, c'est plus de démocratie. Et donc l'écologie va, d'une manière ou d'une autre, nous forcer à y aller. Donc en fait, on est en face d'un grand changement structurel, tant au niveau français qu'au niveau mondial. Et tout l'enjeu politique aujourd'hui, hein, au sens noble du terme, politique au sens noble du terme, c'est de que ce changement soit le moins douloureux possible pour les citoyens et soit le plus avantageux possible. Et c'est ça le grand objectif. Et effectivement, cet objectif passe par une grande réforme de décentralisation que l'on nous annonce depuis très longtemps et qu'on ne voit pas arriver.
Alors, Frédéric Gruet, je vais renvoyer à votre livre. Et si ce n'était pas le climat, la biodiversité, le combat pour changer le monde, dont la préface est d'Hélène Soubelet, qui est elle-même responsable de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Et tous les auditeurs qui pourront aller lire ce livre, qui le verront de près, y trouveront de nombreux exemples, parce que vous ne vous contentez pas effectivement de prendre comme ça des grandes décisions globales, mais vous nous montrez aussi comment localement, on peut gérer cette question et tout en respectant la justice climatique. Frédéric, merci et à bientôt.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Et la semaine prochaine, eh bien, j'évoquerai les ténèbres et la lumière. Montpellier magnifique. S'est lancé dans une grande opération, effectivement, de mettre la nuit plus tôt, c'est-à-dire d'empêcher l'éclairage de venir déranger les espèces nocturnes. Et puis, on s'aperçoit que, quand même, 2 jours ou 3 jours sur Montpellier-Ville-Lumière, on a un retour de la jeunesse. Donc, on est encore dans une de ces contradictions compliquées qu'il va falloir résoudre. Et donc, ce sera l'objet de notre émission de la semaine prochaine.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente.
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur Divergence FM.